Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Julien Marion.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Vous êtes vraiment à la tête de tout ce qui a été en première ligne cette semaine et depuis 10 jours que la canicule a commencé. Vous êtes notamment le chef des pompiers. C'est la sécurité civile qui a dû gérer au front, en quelque sorte, à la fois le premier bilan, la sécurisation des événements, mais aussi aller au-devant de tous ceux qui ont souffert. Ce premier bilan qui a été avancé par Santé publique France, on dénombre au moins 1000 décès supplémentaires la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que le pire est derrière nous ou pas ?
Pas forcément, parce que comme ça a été très bien dit, l'effet sanitaire de la vague de canicule, il va continuer à se faire sentir dans les jours qui viennent. On le sait, les organismes réagissent avec retard aux effets de la vague de canicule. Et donc on sait que cette semaine encore, pour encore 5 à 10 jours, on va continuer malheureusement à mesurer les effets de la vague de canicule que notre pays vient de connaître.
Ça veut dire que ceux dont les maisons, dont les corps ont pris chaud, vont prendre énormément de temps à retrouver une activité, une vie, un quotidien normal.
Oui, la bonne nouvelle, c'est que les températures ont chuté, là qu'on est sorti de la vague de canicule, donc on va pouvoir retrouver des conditions météorologiques un tout petit peu plus normales, mais il faudra rester extrêmement vigilant, et je pense en particulier, en disant ça, aux personnes âgées isolées. C'est d'elles qu'il faut s'occuper et se préoccuper maintenant pour savoir comment elles vont et pour aller prendre de leurs nouvelles.
Ça veut dire quoi, concrètement? Quel est le constat que vous faites d'abord de la semaine écoulée? À quoi avez-vous dû faire face en particulier?
On a fait face à une vague de canicule d'une ampleur exceptionnelle. Un phénomène météo vraiment d'une ampleur inédite, ça a été très largement commenté. La semaine dernière, au pic de la canicule, il faisait plus chaud en France que dans 99% sur 99% de la surface
planète.
De la Terre. Donc c'est quelque chose de complètement hors norme. Donc il a fallu gérer les conséquences de ça et les conséquences sanitaires, parce que on le sait, une canicule prolongée, ça a des effets sur l'organisme et notamment sur les organismes les plus fragiles, mais pas que. On voit bien qu'il y a eu aussi, parmi les victimes de cette canicule, des personnes en pleine santé, dans la force de l'âge, mais qui malheureusement ont subi les effets de la chaleur en continuant à faire du sport.
En surestimant parfois leur capacité à faire face.
Exactement, la canicule, elle touche tous les organismes et pas uniquement les plus vulnérables. Alors à quoi est-ce qu'on a fait face? On a fait face à ça avec un mot d'ordre et absolu qui a guidé l'action des pouvoirs publics depuis le début de la canicule: ne pas subir, anticiper et surtout protéger le maximum les Français.
Qu'est-ce que vous avez vu? On sait que BFM TV vous a accompagné, par exemple, a accompagné un certain nombre de vos équipes sur le terrain, qui parfois étaient appelées pour la chute d'un lit, mais se rendaient compte en réalité une fois sur place que la personne âgée, isolée, était en réalité en coup de chaud. Ça veut dire quoi? Quand vous arrivez, vous voyez des gens qui sont en hyperthermie, ont une fièvre extrêmement élevée, n'arrivent plus à réguler leur température?
C'est exactement ça. On a constaté des phénomènes qu'on connaît, effectivement l'hyperthermie réagit à des températures élevées et prolongées. Vous savez, à peu de manière, on a appris de la canicule de 2003, et on sait beaucoup mieux prendre en charge ces hyperthermies aujourd'hui que ça n'avait été le cas malheureusement en 2003. Je vais vous donner un exemple très concret. Cette vague de canicule, elle a frappé l'ensemble du pays, mais elle s'est fait notamment se ressentir durement à Paris, en région parisienne, en Île-de-France. C'est là que les effets sanitaires ont été probablement les plus intenses. Les pompiers de Paris, ils se sont équipés de kits canicule, c'est-à-dire que quand ils étaient appelés ces derniers jours pour aller prendre soin d'une personne en situation d'hyperthermie, se déplacer avec un kit canicule. Qu'est-ce que c'est? C'est une baignoire mobile, pliable, démontable, dans laquelle ils mettent de la glace, de l'eau froide, pour immédiatement refroidir, faire baisser la température du corps. Et ben, vous savez, ça, le fait d'avoir pu déployer ces kits canicules ces derniers jours, on pense que ça a sauvé à peu près 300 vies à Paris.
Vous pensez avoir, rien que ces derniers jours, sauvé 300 vies?
Bien sûr, toute l'action des pouvoirs publics depuis le début de la canicule, elle n'a obéi qu'à ce seul objectif: sauver des vies et protéger les Français. Vous savez, quand on a pris des décisions d'interdiction de grandes manifestations, de grands rassemblements,
Solidaires, la marche des fiertés,
mais plein d'autres événements partout sur le territoire, c'est pas pour, si vous me permettez l'expression, emmerder les Français, c'est pour sauver des vies, et je pense qu'on a sauvé des vies. Vous avez donné l'exemple de Solidaise. L'annulation de Solidaise, qui n'a pas été décidée de gaieté de cœur, ça a permis très concrètement de redéployer une quarantaine d'ambulances, des sapeurs-pompiers et des associations agréées de sécurité civile partout dans dans les centres de secours de la région parisienne.
Ça veut dire que non seulement ça a potentiellement sauvé des vies sur place si ce festival avait eu lieu finalement, mais c'est aussi les équipes qui auraient été mobilisées, qui devaient être mobilisées pour ce festival, qui ont pu être déployées sur l'ensemble et qui ont donc sauvé aussi d'autres vies
exactement,
par ailleurs.
Exactement, c'est 40 ambulances et puis les pompiers qui vont avec et qui les font fonctionner, ils ont pu pendant ce temps-là aller prendre en charge des victimes de la canicule car il y en avait beaucoup.
Il y en a que vous avez sauvé, il y en a que vous n'avez pas pu sauver et lorsque vous êtes arrivé dans un certain nombre d'appartements, de lieux isolés parce que beaucoup sont morts chez eux, vous avez dû faire face à des décès parfois. De quoi sont morts ces personnes âgées parfois isolées?
D'hyperthermie, des effets de la canicule sur l'organisme, sur les défaillances en série ensuite qui se font sentir sur des organismes fragilisés. Mais vous savez, vous parlez des personnes âgées. Quand je disais qu'on avait appris de 2003, très concrètement, dans les EHPAD, il y a plus. Les EHPAD ont tenu. Et si les EHPAD ont tenu, c'est précisément parce qu'à la suite de la canicule de 2003, on a mis en place toute une série de mesures qui font que dans les EHPAD d'aujourd'hui, il y a au minimum une pièce réfrigérée. Les EHPAD ont tenu.
Est-ce que les personnes qui sont mortes chez elles, est-ce qu'on peut dire ce matin que s'ils avaient eu la clim, ils ne seraient pas morts?
Je ne peux pas répondre à cette question. C'est très difficile à dire parce que c'est très difficile de dire ce qu'aurait été l'impact d'une climatisation sur un organisme affaibli. Les médecins, je ne suis pas médecin, mais les médecins vous diront que une canicule a pour effet d'accélérer des phénomènes des pathologies. Donc c'est très difficile de répondre à une question comme ça.
La vigilance météorologique baisse, mais la vigilance sanitaire demeure. Voilà le communiqué de la mairie de Paris. Comment vous expliquez que Paris et la région parisienne aient été aussi violemment touchés?
D'abord parce que ça a été un des endroits où il a fait le plus chaud. Et pas le seul, mais c'était vraiment Paris et l'Île-de-France ont été vraiment parmi les territoires les plus touchés par cette canicule. Ensuite, parce que vous le savez, à Paris, en région parisienne, il y a une concentration, une densité de population très 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 élevée qui fait que mécaniquement, les effets d'une vague de canicule s'y font probablement plus durement sentir qu'ailleurs.
Avec cette vigilance qui doit donc perdurer, vous l'avez dit, parce que les effets sanitaires peuvent arriver en cascade et de manière décalée, d'autant plus qu'on attend à nouveau potentiellement une nouvelle vague de chaleur dès la fin de la semaine. Est-ce que les corps auront le temps, j'allais dire, de reprendre de l'air, de se rafraîchir, avant de devoir à nouveau affronter un retour de la chaleur?
C'est tout l'objectif. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure qu'on était dans l'anticipation permanente, donc là, la vague de canicule que nous venons de connaître est derrière nous, heureusement et tant mieux. Dès ce soir, on se retrouve en cellule de crise autour du Premier ministre pour penser le coup d'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si on a un deuxième épisode de chaleur équivalent ou moins important qui vient frapper notre pays dans les prochains jours? Quels enseignements on tire, si je puis dire, à chaud de ces 10 jours de canicule qu'on vient de connaître?
À la une, d'ailleurs, de cette cellule interministérielle de crise à laquelle, évidemment, vous participez et dont vous êtes l'un des premiers acteurs, il y a un certain nombre de chapitres qui vont être auscultés, j'allais dire. Il y a la question du domicile. Premier point, est-ce que sur cette question-là, c'est-à-dire les personnes isolées, est-ce que vous avez en quelque sorte une cartographie? C'est-à-dire, est-ce que vous savez où ils sont, qui sont les derniers au bout de la route? On a parlé des postiers qui allaient devoir être mobilisés, on parle évidemment des pompiers, mais aussi des voisins. Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont au-delà, j'allais dire, et qui ne sont plus à portée des autres?
Oui, il y a une solidarité et ça c'est quand même un motif de d'optimisme. C'est que là encore, on a appris de 2003. Vous savez, dans chaque commune aujourd'hui, vous avez une liste des personnes isolées, vulnérables. Et ce qui a été une des premières choses qui a été demandée lors de la première réunion de la cellule interministérielle de crise au début de la canicule, c'était via chaque mairie d'aller prendre des nouvelles de chaque personne inscrite sur cette liste. Et je pense que ça a été fait. Et là aussi, je pense que ça a sauvé des vies.
La question de l'école, ça. Ça peut être derrière nous, puisque c'est la fin de l'année scolaire mardi. Donc, si une nouvelle vague caniculaire arrivait, au moins, il n'y aurait plus cette question-là. Mais reste la grosse inquiétude sur l'hôpital. Est-ce que, une fois que vous constatiez parfois qu'il y avait des personnes en détresse et que vous les ameniez à l'hôpital, est-ce que l'hôpital a tenu?
L'hôpital a tenu, Apolline de Malherbe. L'hôpital, le système de soins a été fortement, très fortement sollicité, mais il a tenu. Et je pense qu'il faut quand même rendre hommage, donner un immense coup de chapeau à l'ensemble des personnels personnels soignants de ce pays qui ont été fortement, très fortement et intensément mobilisés au cours des derniers jours, mais l'hôpital a tenu. L'hôpital a tenu sans remettre en cause la capacité d'absorber des personnes qui tous les jours viennent pour se faire soigner pour tout à fait autre chose.
Mais est-ce qu'il tiendra encore si des vagues de canicule arrivent pendant l'été à des moments où il y a un certain nombre de soignants qui seront en vacances? Ça n'était pas le cas pour l'instant.
C'est l'objet de la mobilisation du plan Orsan niveau 3 qu'a décidé le Premier ministre et que ça permet précisément, pour faire face à ce type de situation, de dégager des capacités, d'ouvrir des capacités d'accueil supplémentaires pour prendre en compte des...
Est-ce qu'ils vont pouvoir partir en vacances, les soignants?
Je sais pas, je peux pas vous répondre. Les soignants, comme l'ensemble des acteurs du secours, ont besoin de se reposer, c'est évident, s'ils veulent pouvoir se mobiliser complètement au profit de nos concitoyens. Mais je sais pas vous dire concrètement qu'est-ce que sera le régime des congés cet été.
Julien Marion, je rappelle que vous êtes le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Quand on voit ce premier bilan, 1000 décès supplémentaires environ qui sont évoqués par Santé publique France, est-ce que vous vous dites chaque jour va gonfler ce chiffre?
On sait qu'une vague de canicule entraîne une surmortalité. C'est le sens d'ailleurs de ce que vient de diffuser hier Santé publique France, mais sur des données très, très parcellaires. Donc le véritable bilan de cet épisode de canicule, on le connaîtra dans quelques semaines, une fois qu'on aura le recul suffisant. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'il soit le plus limité possible. Mais il y aura malheureusement une surmortalité imputable à cette canicule.
Est-ce qu'on sait à peu près ce à quoi il faudra s'attendre?
Non, je ne peux pas vous dire parce que c'est beaucoup trop tôt. On est encore trop près de l'événement et ce genre de données remonte avec pas mal de décalage.
Avant de passer à la question aussi des incendies, parce que c'est aussi l'autre gros risque, au moment où l'on se parle, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent, qui pourraient avoir le sentiment que ça y est, on peut ressortir, qu'on peut se remettre à faire du sport quand on est jeune et que peut-être depuis une semaine, on s'était interdit de sortir. Est-ce qu'on peut y retourner? Est-ce que ceux qui, ont des fourmis dans les jambes peuvent y retourner ou est-ce qu'il faut rester très très prudent?
C'est des conseils de bon sens. Les organismes sont fatigués par ce qu'ils viennent de vivre. Tous les organismes, pas uniquement ceux des personnes vulnérables et les plus fragiles, les organismes y compris de personnes en très bonne santé. Donc il faut continuer à faire attention, il faut éviter les efforts physiques extrêmes en pleine journée. Nos organismes sont encore fatigués par cet épisode de canicule, donc il faut en continuer à faire très attention.
Nos organismes sont encore fatigués?
Bien sûr, bien sûr. Nos organismes, là, ils viennent de prendre 10 jours de chaleur intense, donc il faut les ménager.
Donc on se repose.
On se repose. Il ne s'agit pas de dire interdiction absolue de faire du sport, mais il faut le faire si possible dans des locaux climatisés. Enfin, on a quand même des salles de sport qui ont fleuri partout dans nos territoires. C'est plutôt là qu'il faut aller faire du sport plutôt qu'en plein soleil en pleine journée.
Vous avez dit on a tenu. Beaucoup de critiques, très nombreuses, notamment des différentes oppositions sur l'impréparation du pays. Est-ce que vous les entendez?
J'entends ces critiques, mais je les trouve assez injustes et assez inexactes, parce que précisément, dès qu'on a su qu'un épisode de canicule allait venir frapper notre pays, alors je dis juste que ce genre de phénomène météo, on peut avoir des certitudes à partir de 3-4 jours avant que ça arrive. Avant, on a des probabilités, mais de certitude, c'est 3-4 jours avant. Dès qu'on a su qu'il allait avoir un épisode de canicule qui allait frapper notre pays, mobilisation générale de tous les services de l'État, cellule interministérielle de crise, on y a passé toutes nos journées pour essayer de d'abord mesurer ce qui se passait et surtout anticiper, préparer, ne pas subir.
Quels sont vos regrets? Qu'est-ce qui vous a manqué?
Il y a toujours des regrets, des retours d'expérience à faire. On va d'ailleurs commencer dès ce soir lors de la
réunion
avec cette cellule de crise. Il y a peut-être des choses qu'on aurait pu davantage dans la pédagogie de l'action, polir, davantage affiner, etc. Il y a aussi probablement des choses à améliorer sur précisément le dernier kilomètre, ce que vous avez dit très justement tout à l'heure, c'est-à-dire comment aller jusqu'à la personne isolée chez elle. Alors on a commencé à imaginer un peu dans l'action des pistes, mais je pense que tout ça mérite encore d'être retravaillé.
Mais quand on dit isolé, ça ne veut pas forcément dire au bout d'une toute petite route. Ça peut vouloir dire
isolé, c'est votre voisin
un étage,
hein.
Un étage d'immeuble, et c'est ces voisins qu'on voit rarement, mais dont il faut prendre des nouvelles.
C'est exactement ça. Quand je parlais de mobilisation générale, c'est évidemment la mobilisation générale de tous les services publics, de toutes les autorités administratives, mais c'est la mobilisation générale de chacun d'entre nous. Et c'est la personne isolée, ça peut être le voisin de palier, ou le voisin de l'étage du dessus.
Avez-vous assez d'ailleurs de volontaires ?
Oui, on a la chance d'avoir dans notre pays quand même non seulement les acteurs du secours, les personnels soignants, mais on a aussi beaucoup des milliers, des centaines de milliers de bénévoles qui ont été fortement mobilisés, et ça c'est aussi une grande force.
L'inquiétude sur les feux de forêt à présent et sur ce pays qui reste extrêmement chaud, la terre reste chaude, les arbres restent chauds. Où est-ce qu'on en est de ce bilan d'abord des quelques incendies qui ont déjà eu lieu ces derniers jours, et quelle est votre vigilance pour les prochaines heures et les prochains jours ?
On va avoir une saison feux de forêt compliquée. Ça, je crois malheureusement qu'on peut le dire d'ores et déjà. En particulier cette semaine, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, on va avoir un épisode de vent, Mistral et Tramontane dans le sud, à partir de demain probablement. Donc le risque feu de forêt va augmenter très nettement. Et donc là, vraiment, moi ce que je voudrais, c'est lancer un appel à chacun de vos auditeurs. 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Et donc, pour essayer de limiter autant que possible le nombre de feux de forêt et les hectares brûlés, pour essayer de préserver les services de secours, les pompiers, les pilotes d'avions bombardiers d'eau, chacun doit se sentir un tout petit peu responsable. On sait qu'on va avoir une saison feu compliquée, mais je tiens à le dire, notre dispositif est prêt. Voilà.
On est prêt, appel à la très grande vigilance donc. Il y a 2 Canadair qui ont été commandés mais qui ne sont toujours pas arrivés. Est-ce qu'ils ne vont pas vous manquer ?
On a 2 Canadair, on a même 4 Canadair supplémentaires qui ont été commandés, 2 en 2024 et 2 cette année, ce qui va porter notre flotte de Canadair à 16 machines à terme. En attendant, vous savez, on a la chance d'avoir une des flottes d'avions bombardiers d'eau parmi les plus fournies de tous les pays au monde. Il y a les 12 Canadair actuels, mais il y a aussi 8 Dash avions bombardiers d'eau, et nous louons chaque été depuis 2023 des capacités supplémentaires, 6 avions légers et 10 hélicoptères bombardiers d'eau. Donc on a la chance d'avoir des moyens, et je tiens à le dire, une très bonne disponibilité de ces moyens au début de la saison.
Donc on a les moyens de faire face. Il y a eu déjà cette semaine quelques feux. Est-ce qu'au moment où on se parle, tout est sous contrôle ?
Le week-end a été relativement calme, enfin en tout cas l'activité a été mesurée, mais c'est ce qu'on attendait parce que le niveau de risque était faible. En revanche, sur la semaine, là je suis très très vigilant parce que le niveau de risque va élevé. Il faut savoir quand même, à Pauline de Malherbe, qu'au moment où on se parle, depuis le début de l'année, il y a eu 7000, un peu plus de 7000 hectares qui ont brûlé sur des feux de forêt.
C'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
C'est plus que l'an dernier.
C'est plus que l'an dernier.
C'est plus que l'an dernier à la même date. Ouais.
Je voudrais qu'on puisse dire un mot aussi, avant de terminer cet entretien, de ce qui se joue au Venezuela, parce que ça paraît loin, mais nous sommes mobilisés, vous êtes mobilisés. Vous avez envoyé, je crois, une équipe de 85 hommes et femmes sur place pour aider à déblayer après le très grand séisme. Ils restent sur place. Est-ce qu'on a encore un peu d'espoir ?
L'espoir, il est heureusement, l'espoir existe jusqu'au dernier moment. On a effectivement 85 sapeurs-sauveteurs qui ont été projetés dès ce week-end au Venezuela, qui sont à pied d'œuvre depuis leur arrivée. Et hier, ils ont pu, avec l'aide de leurs collègues américains, sauveteurs américains présents sur place, ils ont pu sortir vivants des décombres, un père et son fils. Et ça donne tout.
C'est nos équipes, enfin,
c'est les équipes de la sécurité civile française. Ce sont les sapeurs-sauveteurs du régiment de Brignoles, à qui je veux rendre un hommage. J'ai leur donné un coup de chapeau, ils sont extraordinaires, ils travaillent dans des conditions extrêmement dégradées. Vous avez pris connaissance du bilan, 50 000 personnes disparues, ils sont à pied d'œuvre. Je crois que c'est vraiment pour nous tous un motif de fierté de savoir qu'on est capable d'envoyer à l'autre bout de la planète, dans des circonstances très difficiles, nos sapeurs-sauveteurs, et qu'ils sauvent des vies.
Et qu'ils sauvent des vies aussi là-bas. On est à un bilan de plus de 1450 morts, et en effet, vous le disiez, encore 50 000 disparus, 85 de nos hommes et femmes qui sont donc mobilisés sur place. Un très grand merci d'avoir fait ce premier bilan avec nous ce matin, Julien Marion. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mais vous le dites ce matin, si vous avez réussi à sauver un certain nombre de vies, il faut rester très très vigilant. Nos corps ont été éprouvés, il faut les ménager.